Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de serial-gamer.fr. Je suis toujours en compagnie de Ludovic.
Bonjour à tous.
Et on a un invité cette semaine qui est Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Et tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent ?
Bien sûr, alors je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 23 ans et je suis en Master 1 cinéma à Paris.
Ok, donc on va tout de suite commencer avec les news des deux dernières semaines. Alors la news principale, c'est le gros leak pour Rayman Legends.
Le gros leak.
Gros leak, parce que voilà, une vidéo a fuité sur internet présentant le prochain Rayman, donc la suite de Rayman Origins.
Suite, je suis pas sûr que ce soit vraiment la suite.
Hein. Apparemment, ce serait une suite. Et ouais. grosse faute, on va dire, c'est que le jeu a été présenté sur Wii U.
Donc, Pourquoi grosse faute?
Bah, parce que voilà, on apprend vraiment des capacités de la Wii U qui devait être gardée secrète, je pense. Je vais vous en parler. Donc voilà, le jeu a été présenté. Donc, apparemment, ce serait une vidéo interne pour Ubisoft, pour les commerciaux, etc. Où on voit le jeu tourner, donc des graphismes qui semblent toujours aussi beaux, je trouve.
Alors là, moi, personnellement, je suis un peu sceptique sur les graphismes. Je trouve qu'ils ont. Alors, ils les ont changés, puisqu'ils ont essayé d'incorporer un espèce d'effet 3D,
on va dire. Ils ont accordé un peu de relief, en fait, sur les personnages. Mais je trouve pas ça dommage.
Je trouve que ça gâche un petit peu quand on voit que c'était si beau, Rayman's Origins.
Ouais.
Rayman Origins, pardon, d'ailleurs. Rayman Legends. Là, je suis un peu freiné. Bon, c'est du Rayman, ça a l'air d'être aussi fun que Origins, mais je suis un peu sceptique.
Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très beau. Et donc, la grosse nouveauté, apparemment, de cet épisode sur Wii U, c'est que grâce à la mablette, on pourra poser des objets made in Ubisoft sur la tablette qui seront reconnus par la console et dans le jeu.
Rien n'est confirmé.
Voilà, concrètement dans la vidéo, si vous voulez, on voit les joueurs poser un petit cœur sur la mablette et on voit des cœurs apparaître dans Rayman pour donner de la vie. On voit un autre joueur poser un lapin crétin sur la tablette, on se retrouve avec des lapins crétins. Et la vidéo se finit quand on voit le même joueur prendre sa figurine d'Ezio d'Assassin's Creed et la poser sur...
Non, il l'a pas posé.
Ouais, il s'apprête à la poser. Donc on s'imagine qu'il y aura peut-être comme ça une compatibilité entre les produits made in Ubisoft et la mablette de Nintendo. Personnellement, j'y crois pas des masses.
Ubisoft a dit dans son tweet que c'était une vidéo interne, que c'était des possibilités, des choses qui étaient peut-être en train d'être développées, voilà, mais pas officielles. Ça veut dire que c'est pas sûr.
Voilà, ce qui a fuité sur la toile, faudra pas trop en prendre compte, si ce n'est pour les graphismes.
Après, le trailer, quoi.
Voilà, c'est juste le trailer. Après, les possibilités qu'on nous promet, voilà. Faut rester assez, faire attention avec ça. La prochaine grosse news, c'est l'officialisation de PlayStation All-Star Battle Royale. Alors, ouais, ça risque d'être assez énorme. Donc,
moi, je m'attends
à un truc assez fun. Alors, en gros, pour vous résumer, ça va être le Smash Bros de Sony.
Alors, et clairement le Smash Bros, parce que quand on voit juste le HUD de l'écran.
Oui, non, c'est le menu de l'écran, le gameplay, tout a l'air similaire, donc sauf que c'est juste avec les licences de Sony. Donc, pour l'instant, dans la vidéo qui a été présentée, on a pu voir Kratos. Donc le héros de God of War, Parappa the Rapper, donc un vieux héros des années 90
sur PlayStation.
C'est assez étonnant.
Assez étonnant.
On a le Sackboy de Little Planet, on a la Fat Princess, on a le clown de Twisted Metal, si j'ai pas de bêtises.
C'est ça.
Et on avait qui d'autre dans la vidéo ?
Non, sincèrement, enfin, il m'intéresse vraiment pas des masses.
Moi, pourtant, il me chauffe pas mal. Et donc, dans les décors, ce qui était assez fandard, c'était de voir, par exemple, des arènes de jeu, donc voilà, très funky. Donc, avec Hades de God of War et avec dans le fond les les niveaux de Patapon. On a aussi le niveau de Little Planet avec l'apparition du jeu Buzz à un moment.
Oui.
Enfin voilà, ça va être un gros jeu fun pour Sony.
Oui, et on peut encore à Nintendo, mais non.
Sony. Et moi, je pense que ça pourrait vraiment pas mal. Donc après, on pourra sûrement s'attendre à voir Drake d'Uncharted, Cole de Infamous.
Cole, ça avait même été plus ou moins annoncé déjà, mais enfin, en rumeur. Mais je suis très très sceptique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jean-Sébastien. Est-ce que ça t'intéresse, ce genre de jeu?
Ah, ça m'intéresse à fond. Je rêve de jouer, de me battre avec Lara Croft.
Ça serait génial, voilà.
Contre Drake, mais.
Ouais. Ça serait vraiment un truc prendre, je pense. Donc voilà, le fait d'avoir même un Sackboy contre Cole,
Alors, Lara Croft, je suis pas sûr, parce que c'est pas une licence Sony à part entière.
Justement, le truc, c'est qu'apparemment, le titre comprendra non seulement les héros Sony, mais également des personnages de jeux d'éditeurs tiers.
D'accord.
Donc on peut s'attendre à voir quelques exclusivités de ce côté-là pour voir.
Enfin, t'auras pas les mecs de chez Microsoft, t'attends
pas
à
voir
Master Chief.
On aura pas le Master Chief sur jeu là, c'est clairement, et en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire.
Donc du coup, Lara Croft, c'est envisageable.
C'est possible, parce que Lara Croft est sorti avant tout sur PlayStation, donc
on peut aussi s'attendre, sauf si Nintendo a bloqué complètement Snake de Metal Gear. parce que c'est quand même une des licences de base phare pour chez Sony, sauf que depuis ça a été développé sur d'autres et il est dans Smash Bros, donc du coup c'est pas certain.
On verra. Moi je kifferais c'est aussi voir Cloud de Final Fantasy VII. Là je pense que avoir un combat entre Cloud et Kratos ça pourrait juste être énorme.
Faut voir si Square Enix va vendre la licence hein.
Voilà, donc après faut voir. En tout cas, le titre a été officiellement annoncé, donc ça s'appellera PlayStation All-Star Battle Royale, donc ce sera sûrement ils avaient pas plus long comme titre. Donc ce sera sûrement annoncé avec plus de détails pendant pendant l'E3 2012. On attend avec impatience.
Oh, il y a de grandes chances.
Voilà, prochaine news, c'est le nouveau projet survival horror de Shinji Mikami. Donc pour rappeler, c'est le père de Resident Evil. Récemment, il a travaillé sur Vanquish, dont il était le producteur principal. Et donc, ce nouveau survival horror s'appellerait Project Zewi. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce en tout cas, mais Zewi, ouais, sûrement, un truc comme ça. Donc voilà, c'est le studio du créateur, donc Tango Gameworks, donc le studio de Mikami, qui travaille en effet, qui travaille avec Bethesda Softworks sur un projet de survival horror encore bien vague à l'heure actuelle. Donc une interview a été accordée à Famitsu et on apprend que le monsieur se consacrera entièrement à ce nouveau projet en tant que directeur exclusif. Donc c'est une première depuis Vanquish en 2010, donc on attend du lourd, sachant qu'il avait aussi été s'était pas mal investi dans Resident Evil 4, pardon, qui était quand même un jeu excellent. Donc
je peux pas dire.
Ouais, il était vraiment vraiment officiel, donc on peut s'attendre vraiment à quelque chose de bien. Sachant que récemment le survival horror, bon, c'est pas non plus quelque chose de ouf, à part Dead Space, mais depuis ça.
Dead Space qui aura un troisième volet normalement.
Ouais, ce qui
c'est plus ou moins annoncé. Hein,
bon, de toute façon, fallait s'y attendre.
Oui.
C'est une grosse licence, je pense pas qu'ils vont se reposer sur laurier pour faire un peu de thune avec ça.
Jean-Sébastien, toi, c'est un peu ton genre de jeu les survival horror ou pas du tout?
j'ai adoré, ouais, le premier et surtout le 4.
Le premier, ouais, le 4 le plus génial.
Le 4, c'est vraiment dans la bonne veine du premier. Enfin, des trois, et des trois premiers en général.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des images de ce...
Alors, il y a un premier artwork qui a été officialisé, qui a été justement annoncé avec, qui a été donné si tu veux avec l'annonce. On voit une sorte de champ avec des pierres tombales, un truc très blanc avec un ciel gris et une sorte de soldat marché seul au milieu. Et avec ça, il y avait aussi une compilation d'artwork qui ont plus des ambiances. Donc c'est quand même assez noir, assez sombre et je sais pas, moi je suis assez confiant pour ça d'ailleurs. Franchement, je suis un gros fan de survival et j'attends vraiment un truc de bien.
Bah surtout qu'on n'a pas beaucoup de survival horror très très marquant à l'heure actuelle. Hein. Il y a pas eu, ça s'est un peu cassé la gueule.
Ah, surtout avec le projet Amy, je crois, sur PlayStation Store qui est un peu foiré récemment.
Ouais, on va voir. Hein. De toute façon, c'est un des genres de jeux qui personnellement me marquait quand j'étais gosse. Je vois encore les chiens passer à travers les vides de Resident Evil.
Ouais, c'était assez flippant.
Ça t'a marqué. Bah ouais, on a tous flippé. Ouais. Aujourd'hui, tu les revois et tu flippes plus parce que les graphismes ont tellement évolué, mais on a envie quand même de retrouver cette sensation.
Bon, sachant que là, c'est pas vraiment Resident Evil, donc ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Donc,
ouais, mais pourquoi pas, justement.
Voilà, ouais.
Il faut aussi de la fraîcheur dans cette licence. Non, c'est sûr. Hein.
Voilà, et donc, dernière news, on l'attend depuis des années, c'est Diablo 3, oui, en tout cas, moi je l'attends depuis des années, Diablo 3, donc, bon, qui a été annoncé pour le 15 mai depuis quelques temps déjà, donc tout le monde est au courant. Et voilà, donc il y aura pour l'occasion le 14 mai au soir des événements pour fêter la sortie. Donc à Paris, le lancement officiel sera organisé par Blizzard et la FNAC et aura lieu à la Fête des Champs-Elysées.
Alors ouais. Oui, moi je vois venir tout de suite, hein, tous ceux qui nous écoutent, hein, vous n'êtes pas forcément à Paris, vous allez encore dire « Ah, c'est à Paris !»
Non, justement, il y a aussi plusieurs autres lancements, si vous voulez, un peu partout en France, donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais le gros du gros, vraiment, sera à Paris, donc le 14 mai à partir de 18h.
Si vous voulez quelque chose de dédicacé...
Voilà, c'est ça, c'est justement, ce sera le 14 mai à partir de 18h, donc on nous promet des activités, des animations, avec des concours et des lots à la clé. Donc, et le Graal, ce sera bien sûr donc Diablo 3 disponible, mise en vente à partir de 21h, et on pourra même se le faire dédicacer son jeu par les membres de l'équipe de développement. Donc voilà, moi je pense que le 14 mai, je vais camper toute la journée aux Champs-Elysées pour essayer d'en décrocher un, surtout s'il reste des éditions limitées, je serai assez content.
Ouais, c'est possible, mais sincèrement, je suis sceptique sur ce genre d'événement, il y a toujours énormément de monde et il n'y a pas tout le monde qui a sa dédicace à la fin.
Bah moi je me souviens que j'avais été au lancement de Call of Duty Black Ops aux Champs-Elysées justement il y a un an et j'avais réussi à avoir mon...
Je crois.
Non, Black Ops. Ah Black Ops, ouais, peut-être dedans, je sais plus, bref. Et j'avais réussi à avoir mon exemplaire dédicacé par le directeur artistique du truc donc...
Bon, par contre si vous voulez une édition limitée, prenez-vous très tôt. Hein.
Faudra vraiment y très tôt parce que déjà que sur internet il en reste plus, donc je pense qu'ils ont dû garder quelques exemplaires pour l'occasion.
Il y a toujours 20% des exemplaires pour la vente.
Ouais, donc là, moi je pense que je vais me jeter sur un exemplaire parce que l'édition est quand même très très belle.
Oui, et puis elle contient aussi Diablo 1 et 2. Hein.
Voilà, entre autres sur une très très belle clé USB en forme de crâne, je crois. Il y aura aussi un artwork de génial. le making of de la bande annonce, la BO du jeu, enfin vraiment.
Et des objets pour World of Warcraft.
Voilà, exactement. Donc vraiment quelque chose de très bien fourni. On peut s'attendre à un prix environ entre 100 et 120 euros, je pense. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ça se passera sur Paris, donc à la fin des Champs-Élysées, le 14e à partir de 18h, et un peu partout en France. Donc renseignez-vous sur les sites,
sur le site de la Fnac.
Voilà, sur le site de la Fnac par exemple, il y a sûrement d'autres endroits en France. Et je crois qu'Anthony, tu avais aussi une dernière news à nous proposer.
Oui, quelque chose qui me tient à cœur, parce que personnellement, la saga Metal Gear Solid, c'est une des sagas pour moi qui est la plus énorme. Et Metal Gear fête ses 25 ans. Et à cette occasion, Uniqlo, à partir du 2 mai, Uniqlo Opera, donc là par contre c'est pas rien, Uniqlo Opera et Uniqlo Défense vendent 10 t-shirts différents au prix de 19,99€. Donc dans ces deux boutiques là, et il faut savoir que pour le 10 mai, Yoji Shinkawa, qui est donc le graphiste de MGS,
attitré d'MGS, ouais.
Voilà, et Hideo Kojima, qui bien évidemment c'est lui qui l'a créé,
le créateur de Metal Gear, donc c'est pas n'importe qui,
seront à l'Uniqlo Opera de 18h à 20h pour signer des petites dédicaces. Donc si vous êtes fan, faites le déplacement, ça vaut vraiment le coup. Avec Ludo, on a eu la chance de les voir.
On les avait vus il y a 2 ans, c'est fait dédicacer. Tu t'étais fait dédicacer ton exemplaire de Peace Walker, je crois.
Non, m'étais fait dédicacer Metal Gear Solid Digital Graphic Novel.
Ah oui, carrément l'édition Supreme Collector qu'on trouve nulle part.
Non, c'était juste le jeu, mais le jeu PSP qui a pas spécialement marché, qui a pas trop cartonné, mais qui me tient à cœur parce que c'est un jeu. Enfin, c'est même pas un jeu, c'est une sorte de bande dessinée interactive.
Ouais, voilà, c'est sur ça, ouais.
Et comme il y avait Yoji Shinkawa, je me suis dit que c'était quand même le top de faire dédicacer.
Moi, je m'étais fait dédicacer le premier Metal Gear Solid sur PlayStation. J'étais genre en mode gamin, j'ai encore les petits exemplaires chez moi.
C'était il y a un moment maintenant. Hein.
C'était juste génial, il y avait une très bonne ambiance, les mecs étaient vraiment très sympas.
Ah, grave. Il souriait.
Hideo Kojima qui dégage, il est tout petit, mais dégage un charisme de malade.
Surtout qu'au départ, on devait donc se faire dédicacer soit un exemplaire du livret presse,
ouais,
soit le jeu Peace Walker, et il a fini par dédicacer
il a même
voulait,
dédicacé une PlayStation 3, je crois, un mec qui s'est terminé avec sa PS3, ouais, il a fait dédicacer, enfin c'était vraiment un truc de malade.
Exactement.
C'était vraiment un bon truc, donc on espère les revoir
à cette occasion. Chez Nintendo, c'est ultra marquant.
C'est surtout qu'il vient pas souvent en France, donc quand il est là, on en profite un peu, quoi.
MGS, ça t'a marqué, toi, Jean-Sébastien?
Metal Gear, ouais.
Mais moi, j'avais fait le premier quand j'étais petit sur PS2.
Le meilleur.
Mais oui. Et puis j'avais fait le deuxième sur PS2.
Ouais.
Et puis je m'étais arrêté là, parce que j'étais complètement perdu.
C'est vrai que l'histoire, elle est quand même vachement compliquée, ouais.
C'est
dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment une.
Je te conseille vraiment. Surtout qu'il y a la compilation HD qui sont sorties sur.
Mais voilà, c'est ça, ouais. Ça, c'est la
compilation. Et 360.
Ouais, faudrait que ça, je me le prenne aussi pour le.
Et sortira aussi sur Vita, d'ailleurs.
Mais sur la compilation, ils ont pas mis le MGS2, je crois.
Si, MGS2, il y a MGS2.
Ah, c'est
3,
le 1 en fait,
il y a le 1 qui
est parce qu'ils avaient pas mis, ouais.
Et sur Vita, il y aura pas Peace Walker.
Ouais, bon, ça c'est pas une grosse perte, j'ai envie de dire.
Si, c'est quand même un épisode entre guillemets marquant parce que c'est un vrai Metal Gear, quoi.
D'accord. Enfin voilà, c'est tout pour les news. On va passer maintenant au test de la semaine.
Le test du podcast qui concernera The Walking Dead, donc qui se découpera en 5 épisodes. Donc j'ai joué au 1, j'ai fini le premier épisode et sincèrement, il y a des choses à en dire.
Tu peux nous rappeler vite fait quand est-ce qu'il est sorti ?
Il est sorti le 26 avril.
D'accord, très bien.
Et le 27 sur Xbox 360, ils ont quelques problèmes de lancement, Telltale, bon, ça s'est réglé. Moi, par exemple, j'avais commandé le Season Pass et ils ont eu des problèmes de serveur chez eux pour le télécharger. Ils nous ont à tous envoyé une clé Steam avec la possibilité de télécharger l'épisode 1. Donc, ils ont été réactifs
et c'est bon de
le souligner.
Ils n'ont pas déconné pour le coup.
Non, et puis après, on peut télécharger. Donc, il faut d'ailleurs télécharger pour avoir les autres épisodes. Depuis leur site, là, ça y est, tout est réglé. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez y aller. On va commencer par parler des graphismes qui sont propres chez Telltale.
Ils sont même très très propres, on peut dire, je pense.
Ouais, et ils les ont créés vraiment finement. C'est sublime à voir. C'est très cartoon.
C'est vraiment une représentation en couleur en fait du comics, quoi, pour le coup. Il y a le trait, le dessin.
Je pense qu'ils ont voulu se rapprocher au plus possible du comics. Et sincèrement, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment, vraiment très beau à voir.
Ouais, avec un aspect vraiment cel-shading très bien travaillé sur les vêtements, sur les visages, avec le côté coup de crayon qui passe vraiment bien, je trouve.
Ah, clairement. Et puis, on rentre vraiment dedans. Après, si t'adhères pas au style cartoon, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment très style cartoon, mais ça a un univers très propre. Tel quand ils créent des jeux, graphiquement, ils essayent de créer quelque chose à chaque fois de différent. Back to the Future n'était pas du même style graphique. Là, ils ont vraiment créé quelque chose vraiment très proche, comme tu le dis, du comics. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant à voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Sébastien.
C'est d'autant plus intéressant que on a peu l'habitude, par exemple, là, on a vu Dead Island, on a peu l'habitude d'avoir des graphismes comme ça avec ce genre de jeu et qui pètent vraiment, quoi.
C'est vrai que pour le coup, même les tons des couleurs, je trouve que c'est vraiment bien choisi. C'est vraiment, il y a un petit côté pastel qui colle bien l'univers assez gris du comics. Et
Oui,
je trouve que c'est
tout est bien
vraiment,
retranscrit, l'atmosphère, parce que la bande son est aussi énorme, on te met vraiment dans le truc comme il faut, c'est vraiment génial. On va parler du gameplay maintenant. Alors, chez Telltale, on est habitué souvent à du point and click, voire Monkey Island ou Back to the Future.
Retour pour le futur pour les Français.
Retour vers le futur, hein, pas retour pour le futur.
Retour vers le futur pour les Français, excusez-moi.
Là, on a un gameplay vraiment à part entière, où on dirigera, il faut d'ailleurs, je conseille très fortement une manette, parce que c'est assez speed par moment pour être joué au clavier. Donc avec son joystick, je vais en parler à la manette, hein. Au joystick gauche, on va diriger son personnage. Joystick droit, on va diriger une sorte de croix sur l'écran qui va être la vue en fait. Mais on verra pas en vue première personne. On va vraiment voir la personne en troisième personne avec son plan de décor et tout ça. Et le stick droit va donc aider à chercher des indices, des objets dans le décor. Donc à la manière d'un point and click jusque-là.
Ouais.
Mais ils ont ajouté du QTE, des phases
Ah
de
ouais?
QTE.
Bah c'est très à la
Donc
mode en ce moment, donc
ouais, c'est très à la mode. Mais là donc c'est sur les combats. Je vais prendre l'exemple du début du jeu. Le jeu commence, on est dans une voiture de police menottée.
Ouais.
Et on a un accident de voiture en percutant un zombie. Bon.
Jusqu'ici
Jusque
tout va
là,
bien, la vie
tout est
normale d'un
normal.
Américain, j'ai envie de dire.
Exactement, tout le monde en Amérique se font percuter par des vampires.
Hein?
Des vampires,
Des
n'importe quoi,
vampires,
des
des
zombies.
zombies?
Bien sûr. Jusque là, tout va bien. Et on doit donc sortir de cette voiture. Notre conducteur, l'officier, est passé par la fenêtre et donc mort, malheureusement, pour lui. Et on doit sortir donc de la fenêtre et on s'approche de la fenêtre donc avec notre stick gauche et on vise la fenêtre avec notre stick droit et on voit donc sur cette fameuse croix, c'est une croix vraiment, hein, le bouton du bas qui s'allume pour donner des coups de pied. Et
Ouais.
il faut donc appuyer sur le bouton du bas, le bouton A, pour sur la manette 360X sur la manette de PS3 ou les touches. Alors c'est en QWERTY puisque c'est un jeu anglais, donc c'est
Ah, donc faut reconfigurer son clavier en QWERTY
voilà, c'est
pour
ça.
jouer.
Pour
Ah, c'est
vraiment y jouer
un petit
correctement, il
peu galère ça.
faut. Ouais, c'est galère, puisque le problème c'est ça, c'est que. Je vais en reparler après d'un autre problème de langue. Et donc, si on joue à la manette, tout se passe bien, puisque c'est concordé par rapport à la croix, donc on sait qu'en haut c'est le Y ou le triangle, et en bas c'est le X ou le A, selon la manette que vous utilisez. Mais, donc, il y a ces petites phases de QTE, ou sur les phases de combat aussi, on nous affiche une touche. Et ça, c'est assez handicapant sur PC, parce qu'on te dit d'appuyer sur le Q, donc, et si t'es pas, toi tu essayes d'appuyer sur le A, puisque tu te dis que t'as configuré ton clavier, mais non, appuyez bien sur le Q, sinon ça ne passe pas. Il faut bien appuyer sur le Q. Et pareil, on configure aussi pour se diriger son personnage avec Q, tout ça, il faut pas utiliser les flèches, il faut vraiment utiliser la
Ouais, donc il
touche
y a
du
vraiment une
clavier.
prise en main dès le départ qui est assez complexe, quoi.
Sur PC, il faut vraiment s'y atteler correctement. Sur console, de salon, ça passe tout seul.
Normal, ouais.
On a vraiment les touches faciles, mais sur PC, c'est un peu galère à
Ok,
prendre en main.
mais donc concrètement, le but du jeu, pardon, pour l'instant, c'est quoi au juste?
Bah, c'est The Walking Dead. Tu vois le comics?
Ouais, très bien, ouais.
Eh bah, c'est clairement ça. Tu vois qu'il y a des zombies
Tu
partout.
incarnes quel personnage
Tu incarnes un
dedans?
personnage. Bah, tu fais bien d'en parler. J'allais parler justement de l'histoire. Tu incarnes Lee, un personnage qui n'est pas du tout connu du public, soit série télé, soit comics. Et qui se passe comme une sorte de préquel.
Donc c'est donc un nouveau personnage inventé pour l'occasion.
Complètement. Mais par
D'accord, ok.
contre, ça a été le créateur du
Ouais.
comics a patronné complètement
D'accord,
le
il a vraiment
développement du
travaillé
jeu.
dessus, quoi. Très
Ouais.
bien.
Et donc c'est comme une sorte de préquel parce qu'en fait, ça se passe. Si vous connaissez un petit peu le comics ou la série, Rick, ça commence. Rick est dans le coma
Ouais.
et sort du coma. Là, ça se passe pendant que Rick est dans le coma, justement. Donc c'est vraiment un préquel. Alors est-ce que à la fin, on va finalement recroiser Rick ou pas? Je sais pas. Mais c'est vraiment un préquel de base.
Mais
C'est carrément ça.
est-ce que justement dans le premier chapitre tu retrouves des personnages
Alors je vais
du
pas
comics?
spoiler.
D'accord, très bien.
Je vais pas spoiler
Non,
la suite.
tu as raison.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est
Ça
que
veut
c'est
dire oui, je pense.
ultra dynamique. Non, pas spécialement. C'est ultra dynamique et ça retranscrit vraiment très bien les sensations du jeu. Après, je vais pousser un petit coup de gueule sur le jeu.
Ah
Parce
ouais?
que tout n'est pas rose dans The Walking Dead. Donc déjà, il y a des touches PC qui sont pas top top. Et on va parler maintenant de la localisation. Et attention, tenez-vous bien, si vous êtes anglophobe, passez à côté complètement de ce jeu. Il n'y
Pourquoi?
a pas de sous-titres français, il n'y a que des sous-titres anglais, et il n'y
Ah.
a pas de dialogue français, il n'y a que des dialogues anglais.
Ça peut en rebuter pas mal, je
Et
pense.
ça va, et ça en rebute beaucoup. Parce que même moi, qui ai une facilité de compréhension en anglais, j'ai par moments pas mal de mal à lire parce que ça passe tellement vite.
Ouais.
Il faut savoir qu'aussi les dialogues sont en choix, mais en choix limité au niveau de temps. Donc le temps de lire le texte,
la
parce que t'as pas spécialement entendu ce qu'il a dit le gars,
de l'assimiler,
ensuite
de la comprendre,
de lire les 4 choix et de choisir, bah t'as pas le temps, t'es presque obligé d'appuyer sur une touche aléatoire pour
comprendre.
Donc
c'est un jeu, faut vraiment être bilingue pour profiter un max.
Après je dis donc les contrôles sur PC sont pas top, mais il y a des gens qui sont en train d'essayer de le traduire non officiellement, comme ça s'était passé pour Monkey Island, et donc ça devrait être traduit. Mais sur le PC,
de toute façon, je pense que voilà, sur PC, il y en a sûrement qui feront l'effort et qui nous fourniront une version
Ouais, ça s'est fait pour Monkey Island, donc il y a de grandes chances que ça se passe aussi pour The Walking Dead.
Soyez un peu patient et vous trouverez le jeu sous-titré en français.
Ouais, mais pas officiellement, ou alors sur un patch futur, mais Telltale a pas l'air pour le moment super chaud à le sortir tout de suite, quoi.
Et niveau bande son, ça donne quoi?
J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est on retranscrit très bien les atmosphères de sorte de films d'horreur et tout ça.
Un peu à la Romero, vraiment les bandes sont assez glauques, assez froides.
Ça, la petite musique monte par moment, tout ça.
Un petit côté survival horror, ou c'est un jeu d'action, ou c'est vraiment du point and click, donc en fait c'est vraiment...
C'est pas vraiment du point and click, c'est pas vraiment du survival horror, c'est un peu un mix de pas mal de choses.
C'est un patchwork de...
C'est un peu un mix de QTE, c'est un peu un mix de pas mal de genres de jeux. C'est pas mal à jouer, c'est agréable. On a vraiment des phases de gameplay différentes, des phases de recherche, des phases de QTE, des phases d'action, puisque quand on est dans le QTE, si t'appuies pas vite, tu te fais bouffer par le zombie,
quoi
qu'il arrive, hein. Donc, c'est assez sympa à jouer. Et une chose que j'ai pas dite, on en parlait dans le podcast dernier des choix dans les jeux vidéo, c'est un jeu à choix. Et un jeu qui se rappellera des choix que tu fais.
Ah.
C'est-à-dire
ça
qu'il
change.
Y a... Voilà, exactement.
Pour une fois.
Et ça va vraiment prendre une tournée différente, au niveau des personnages, quoi. Pas tout le temps, mais il y a pas mal de moments où, si on choisit par exemple de sauver X personnes, et ben, l'autre personnage va mourir.
D'accord, donc
et
vraiment,
sera mort.
Vraiment à la Heavy Rain où les choix pour le coup sont vraiment
exactement,
importants.
Exactement, comme on en parlait il y a 2 semaines. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment à jouer si on comprend bien l'anglais, parce que ça peut être très très rebutant. Donc je le dis encore une fois, hein, si vous aimez pas l'anglais, ne l'achetez pas parce que vous allez être très déçu. Voilà, c'est le
c'est
petit coup de
gueule. C'est un peu bête quand même pour un jeu qui a l'air excellent de
le jeu est, le jeu est très très bon, mais ça va très vite par moment. Hein. Et il m'est arrivé de faire des choix aléatoires parce que j'avais pas le choix, il fallait aller vite. C'est dommage.
Et durée de vie pour le premier chapitre
Justement, alors à peu près 2 heures pour le premier
deux
chapitre.
Heures, ouais.
Il faut savoir qu'il y aura 5 chapitres, que le jeu vaut 20€. Ça veut dire on a une dizaine d'heures pour 20€.
Aujourd'hui
un Call
c'est
of
gratuit
Duty,
j'ai envie de dire.
Aujourd'hui un Call of Duty pour 70€ on a 5 heures de jeu.
Et
foncez.
Encore. Voilà.
Foncez.
Enfin, 5 heures pour une campagne solo, mais bon
Pardon.
Ceux qui jouent pas en multi, ils claquent 70€ pour 5 heures de jeu, c'est un peu dommage. Donc là, pour le coup, c'est vrai que 20€ pour 10 heures de jeu, c'est vraiment bon. Voilà, pour le coup, ils ont vraiment assuré.
20€ si vous prenez le season pass, sinon c'est 5€ par épisode.
Donc ça revient à
25.
Ouais, bon, voilà, c'est pas non plus 25€ pour 10 heures de jeu, ça reste quand même cadeau, j'ai envie de dire.
Prenez le season pass. Hein. Quoi qu'il arrive, ils sont proposés sur vos consoles. Prenez le season pass si ça vous intéresse, et je peux que vous le conseiller, sauf. Si, malheureusement, l'anglais vous rebute.
Voilà.
Ce sera tout, hein,
donc, je pense que c'est tout pour le test. On va maintenant passer au débat de la semaine. Le débat de la semaine, donc, qui portera cette fois-ci sur la dématérialisation des jeux vidéo, donc sur console. Donc,
Sur console ou sur PC,
c'est sûr. Donc, sur PC, c'est un peu moins amené, on va dire. Donc voilà, débat qui fait un peu rage, j'ai envie de dire, en ce moment dans le milieu de jeux vidéo, donc depuis quelques mois, parce que suite au pass en ligne qu'on retrouve au DLC amené toutes les semaines par Activision, EA et compagnie.
Oui,
on
pas
se retrouve,
seulement ça aussi, les jeux. À
et les jeux, voilà, avec l'arrivée il y a quelques mois du OnLive, je crois, aux États-Unis, donc le système de cloud gaming.
Le concurrent de la Castille.
C'est ça, voilà, où tous les jeux sont sur un serveur et on peut jouer en fait concrètement de son salon sur une machine pas super à des Crysis et des Battlefield. Donc voilà, donc personnellement, moi la dématérialisation, je suis contre, mais alors à 100%, parce que je suis vraiment très old school, j'aime bien avoir ma boîte, mon livret, mon petit CD rangé sur une étagère avec toute ma collection de jeux. Et le fait de me dire qu'un jour je risque d'avoir tous mes jeux comme ça sur une petite carte mémoire à la con sur mon PC où je supporte pas ces idées là, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Anthony, mais moi c'est un truc qui me révolte.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, hein. Il y a plusieurs choses qui me font préférer, entre guillemets, la dématérialisation. La première, je perds pas mes CD parce que moi je suis assez bordélique, hein, autant le dire, hein, clairement.
Ouais, mais ça c'est mon problème.
Quand je sors un CD, soit je le fous dans sa mauvaise boîte, soit je le pose sur un côté de ma télé, soit bah voilà, il traîne. Et je préfère avoir 40 jeux sur un seul endroit à lancer, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. que d'avoir un CD à mettre, à changer, à remettre, à changer.
Ça, c'est question de fainéantise.
Non, non pas seulement.
Je plus sois, ça veut donc aussi dire que tu rayes pas tes CD.
Aussi, voilà. Si un jour tu rayes ton CD que t'as payé 70 euros, tu vas pas avoir les boules de
non,
pas avoir
mais voilà,
ton
mais
jeu.
Ça, c'est parce que les gars, vous êtes pas soigneux. Enfin, je veux dire, si on.
Non, alors ça, c'est faux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines consoles qui rayent les CD d'eux-mêmes aussi, hein.
Enfin, ça c'était la PlayStation 1 à la rigueur à
mais
l'époque.
Mais il y a aussi des consoles récentes.
Sûrement
hein.
Une console récente qui règle tes CD.
Oui, oui. La Xbox 360, ça arrive que ça se passe, hein.
Oui, puis il y avait même eu un 4 PS3.
Ah ouais?
Ouais.
Non, il y a aussi ça, oui. Et le prix. Parce que moi, je suis pour le fait qu'il y ait de la dématérialisation, mais si le prix reste avantageux, si on paye vraiment moins cher.
Bah, concrètement, de toute façon, s'il y a une dématérialisation, donc ça veut dire qu'en fait le.
Enfin,
le...
des fois c'est 5 euros, ça m'intéresse pas.
Ouais, non, mais voilà, mais je veux dire, par exemple, si demain on te propose le prochain Call of Duty en dématérialisé, ça veut dire que concrètement, il y aura pas tout le fait d'avoir des campagnes de pub chez des revendeurs, c'est-à-dire chez ton Micromania, chez ton Game, chez la Fnac, etc. Donc déjà, c'est les économies que que Activision fait dessus. Bon, Activision, j'ai envie de dire, en même temps, ils se font du fric, mais à l'appel sur notre dos depuis
des
années.
Oui, avec des DLC et tout ça, ouais.
Donc voilà, mais c'est vrai que d'un côté, la dématérialisation, ça peut être bien, si tu veux, mais seulement pour les indépendants. C'est-à-dire seulement
non,
pour les petits studios qui se lancent sur le marché, qui
mais
proposent
non.
des trucs et qui veulent, voilà, toucher plus de monde, et donc sans avoir des prix oufissimes. Tu regardes Flower et récemment The Journey sur PS3. C'est des cartons.
Oui, c'est des cartons. Oui, d'accord.
C'est des jeux géniaux.
Et il y a Fez aussi, si t'en fais sur Xbox 360, qui est extraordinaire et qui est quand dématérialisé, mais c'est des jeux arcade, on va dire. C'est pas des jeux complets. Moi, je te parle vraiment de jeux complets là. Je te parle. On voit de plus en plus arriver sur la PS3 ou sur la 360. Donc PS3, c'est sur le PSN et Games on Demand sur 360. À des prix des fois bien plus chers qu'un jeu d'occasion ou même neuf en magasin. Ça, je suis complètement contre.
Et non, mais ça, c'est pas normal, c'est sûr.
Mais donc là, on rejoint aussi le problème de la dématérialisation plus large qu'il soit, c'est-à-dire même pour les vidéos, les DVD en ce moment, les services vidéo
c'est
à la demande.
C'est pas avantageux.
Voilà, c'est pas avantageux, mais le problème, c'est vraiment de la part des éditeurs. Moi, je pense qu'ils ont... Je suis partagé sur la question, je trouve ça bien et je suis pas d'accord avec ça dans le même temps. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les éditeurs, à mon avis, ils ont pas intérêt à continuer dans le sens de la dématérialisation. Pourquoi ? Parce que d'abord, on zappe totalement le marché d'occasion. Donc c'est-à-dire qu'un
c'est
leur
aussi
but, hein.
But, hein.
C'est vraiment ce qui
voilà.
va.
Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, un consommateur va être un joueur va être d'autant plus méfiant avant d'acheter un jeu. Donc il y a moins l'effet d'un l'achat d'impulsion quand on rentre
ouais,
dans une boutique de jeux et que le vendeur te
enfin
dit...
le vendeur il essaie de te vendre ses merdes aussi hein, mais il y a les démos pour faire une
bah,
idée
attends
hein.
Il y a des très bonnes boutiques de jeux où le vendeur il est dans ton sens tu vois
ouais,
il
mais
te
y,
dit,
en a pas,
écoute...
y en a pas beaucoup quand même hein.
Oh, bah, si, bah,
on va citer Micro Arnaque, hein, ça faut pas y aller, hein, ils vont vendre n'importe quelle merde.
Donc, d'abord, une méfiance, le consommateur va de plus en plus être amené à réfléchir avant d'acheter son jeu,
mais
et d'autre part.
Mal.
Non, bah, si, moi je trouve ça, moi
y a
je.
Des démos,
bah,
y a
non,
des
mais
démos.
Mais pas dans tous les jeux, c'est pas vrai.
Et bah, justement, si on a.
Regarde
si on
la démo, par exemple, de Dead or Alive Dimension sur 3DS, combien de temps elle a attendu?
Oui, d'accord.
Tu vois.
D'accord. Alors, il y a deux problèmes, alors. La première, c'est que si on passe sur du tout dématérialisé, il va nous falloir des démos en temps et en heure.
Bah, voilà,
et il va nous falloir surtout des démos à chaque fois.
Oui.
Et c'est vrai que certains éditeurs vont être
refuse.
Très réticents
ouais,
sur les démos.
Bah, oui.
Et pourquoi, à ton avis, ils
donc
sont réticents? Parce que leur jeu,
ça.
Il est pas des fois spécialement très bon.
Mais exactement. C'est pour ça que je te dis qu'ils se tirent une balle dans le pied s'ils vont vers la dématérialisation. D'autre part, c'est aussi le jeune public. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais une dizaine d'années, là, je me dis, putain, je serais un gosse de 10 ans, je jouerais à la console, j'ai envie d'acheter un jeu, bah, il y a plus de support physique, et mes parents voudront jamais lâcher leur numéro de
exactement,
carte.
Exactement, il y a beaucoup voilà,
donc,
de gens qui sont réticents
on
à ça.
Tire vraiment, ils se tirent une balle dans le pied,
d'accord,
mais total.
Pas spécialement, parce qu'il faut savoir que de plus en plus, ils proposent des cartes en magasin. Donc s'il y a plus de magasins
donc,
comme Game et Micro,
donc ça serait des magasins de cartes alors.
Non,
ouais, c'est horrible.
Mais n'importe quoi.
Mais
non, ce serait dans les Carrefour ou les Auchan comme maintenant.
Oui,
mais dans ce cas-là, ça veut dire que les enseignes telles que Score Game ou que Micromania,
Game,
mais ce serait fini.
Déjà Score, c'est fini.
Et ouais, Game, pardon. Donc voilà, Game ou Micromania, ce serait fini. Et moi,
alors ça, c'est pas bon par contre.
Je trouve ça triste.
Parce que ça, par contre, c'est vraiment pas bon pour le jeu vidéo. On a besoin de ce genre de boutique. Et malheureusement, si on passe au côté dématérialisé, il est clair qu'on n'aura plus ce genre de boutique-là.
Et le problème aussi que ça pose, c'est vraiment le alors je sais pas comment on appelle ça en jeu vidéo, mais en tout cas dans le jargon cinéma télé, on appelle ça le diffuseur. Peut-être le constructeur, c'est-à-dire Sony, Microsoft. C'est-à-dire que c'est eux, en fait, qui vont imposer les prix, si tu veux. tu vois.
Alors pas spécialement. Et par exemple sur pas mal de supports, on laisse, par exemple Steam, on laisse l'éditeur décider du prix de son truc. Sur PS Vita c'est pareil, ils ont décidé de laisser à n'importe quel éditeur, donc du coup on se retrouve avec des jeux à 6,11€ parce que l'éditeur a décidé de le sortir à tel prix. Donc quand la plateforme laisse liberté, contrairement à ce que fait Nintendo qui impose un certain prix pour vendre un jeu chez eux, parce qu'en fait ils prennent tellement d'argent sur le bénéfice final que s'ils le vendent pas à tel prix, c'est pas avantageux pour eux. Là je suis pas d'accord, c'est pas bon pour les développeurs indépendants, c'est pas bon pour les développeurs de base, et donc c'est pas bon. Par contre, il faut savoir que avec la nouvelle mise à jour de la 3DS, et ça arrivera d'ailleurs très bientôt, c'est-à-dire à partir de août, on va pouvoir acheter nos jeux directement sur notre 3DS. Ça va arriver avec New Super Mario Bros. 2 sur 3DS, on l'achète directement sur sa console. Et là j'espère sincèrement que Nintendo va être intelligent, mais j'en doute, qu'ils vont faire un prix assez dégressif par rapport à la version boîte, mais j'y crois pas une seconde.
Bon, et donc d'un autre côté, ce qui fait que je suis vraiment partagé entre les deux, c'est que si on encourage ce deuxième marché de la dématérialisation, on aura d'autant plus le plaisir d'acheter des boîtes, parce que bon, soyons francs, ça va toujours exister, hein, les boîtes, ça va pas disparaître comme ça.
Ouais, enfin, quelques années, ça sera
Très non, mais c'est pareil pour la photo, on avait dit que l'argentique aura disparu, il existe toujours.
Ouais, enfin, il y a une dizaine d'années, il y aura plus de CD. Hein.
Voilà, mais si tu veux, bientôt, si tu veux, d'accord, il y aura peut-être les boîtes, mais dans ta boîte, t'auras pas de CD, t'auras un petit papier avec un code.
Mais non, justement, et vous voyez bien, vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant des éditions collector. On voit bien justement qu'il y a...
Est-ce qu'on peut encore appeler ça des éditions collector ? C'est un autre débat, mais quand il y en a 40 000 en vente, j'appelle pas ça des éditions collector.
Ça dépend, parce que moi, il y a quand même des éditions collector qui sont juste magnifiques.
Des éditions augmentées, alors.
Voilà.
Je préfère des éditions limitées, peut-être, pas des éditions collector. Un collector, ça doit être quelque chose qui est tiré à très peu d'exemplaires. Je prendrais Sonic Generation, qui est une vraie édition collector, qui a été tirée à X exemplaires, on n'en retirera pas d'autres. Il y a des éditions limitées qui s'appellent collector, qui retirent. Je suis pas d'accord, c'est pas d'édition collector.
Mais bref, qu'est-ce que j'étais heureux en recevant à Noël Assassin's Creed 2 avec ma figurine et mes maps des églises. Voilà. Et donc on voit bien que
y a toujours un marché qui peut disparaître aussi, je suis d'accord.
Mais non, ça disparaîtra pas.
Non, ça disparaîtra pas, c'est justement.
J'ai un doute, s'il passe tout dématérialisé comme je pense que ce sera le cas d'ici une dizaine d'années. Ils vendront des choses sur les shops, ils vendront tes figurines, au lieu d'avoir ta figurine dans ton pack, tu l'achèteras, au final ça te reviendra au même prix que la version collector.
Mais putain, mais c'est shop. Mais c'est triste en fait, franchement, sincèrement, le fait
mais c'est triste de plus avoir ce genre de boutique, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est pas le fait de plus avoir de boutique, c'est le fait de plus avoir d'éditions comme ça, de plus avoir une belle boîte, un beau rangement, d'avoir son CD, ça nous dit. Moi je suis super old school, j'aime avoir mon étagère avec ma collection de jeux, de DVD, de Blu-ray, de ce que tu veux, et le fait de me dire que bientôt tout sera sur un serveur en Qu'est-ce Chine avec tous
mais
mes
non,
jeux dessus.
Pas spécialement. Mais ça regarde l'exemple de la PS Vita. Ils ont fait l'intelligence, entre guillemets, moi je trouve que c'est très bon, de proposer leur jeu et en support dématérialisé et en support physique. Donc tu choisis, si tu veux payer ton jeu un petit peu plus cher, tu vas l'avoir en support physique sur ta petite cartouche, ou tu vas l'avoir en dématérialisé. Il faut savoir qu'il s'installera de toute façon sur une carte mémoire, plus ou moins de place si tu le prends dématérialisé, forcément il prendra beaucoup plus de place, mais tu auras toujours besoin d'une carte mémoire, la plupart du temps sur PS Vita il y a besoin d'une carte mémoire. Je trouve ça super avantageux d'avoir toute sa ludothèque dans ta petite console, ce qui en fait une console réellement portable, parce que t'as pas toutes tes cartouches à te trimballer, que d'avoir je prends l'exemple de la 3DS, j'ai pas mal de jeux sur ma 3DS, des fois, des cartouches, je sais pas où les foutre, tellement il y en a.
Mais t'as des poches, t'as quelque chose.
Mais non, mais c'est pas la question de poche, c'est pas.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, t'as ok, je suis d'accord.
Ça prend vachement de place.
Ça prend
si tu laisses les boîtiers,
une
si
cartouche,
tu laisses tout ça.
Une cartouche de 3DS ou de Vita, tu vois, ça prend de la place.
Mais si tu laisses les cartouches, si tu mets la cartouche de ta Vita dans ta poche, il y a 2 chances sur 3 que tu la retrouves pas.
Non, mais d'accord, mais voilà, mais c'est encore la question des scénarios. Si tu fais pas attention aussi, tu perds tout, tu règles tout.
Et donc, tu perds aussi un truc qui est énorme, c'est-à-dire que tu peux pas prêter. Moi, je me rappelle quand
voilà,
j'étais ado.
Ça aussi, ouais.
Moi, j'allais chez mes amis avec mon CD
exactement.
Et ma carte mémoire, et hop, on commençait,
D'accord, ok. Donc, contre-argument.
Foutu.
Contre-argument, il est toujours possible, si c'est des vrais amis, attention, ne le faites pas à des gens lambda, de prêter son compte.
Mais voilà, mais attends, et après tu passes 3 heures alors à trouver ton compte, ton mot de passe, ton identifiant, à télécharger le jeu, etc.
Si
avant,
compte.
C'est ce que disait Jean-Sébastien, t'arrivais chez ton pote, tu ramenais ton Tekken, tu jouais à deux, bim, c'était bon. Et maintenant, c'est si tu veux jouer, d'accord.
Il y a beaucoup plus de jeux maintenant aussi qui, sur 3DS par exemple, partage la cartouche, c'est-à-dire c'est à deux consoles, mais tu peux jouer à deux sur la même cartouche.
Ouais,
et ça c'est pas mal
ça,
aussi.
Ça je suis d'accord, mais c'est pas
mais ça va être plus compliqué sur une Xbox. Hein,
voilà, c'est ça.
Bah non, t'as deux manettes sur une Xbox, c'est aussi simple.
Non, mais c'est le fait, ok, mais dans ce cas-là, il faudra.
Tu ramènes ta console.
Voilà, c'est tu ramènes une Xbox.
Bah non, tu ramènes une manette, tu joues sur le même écran.
Oui, non, mais pour avoir le jeu.
Voilà, c'est ça, c'est dans ce cas-là, tu parles
de l'intérêt. Tu l'as pas le jeu.
Voilà, mais voilà, c'est ça, donc... et voilà, tu l'as pas le jeu. Si, si c'est un pote qui doit venir chez toi, alors te connecter sur ta Xbox.
Il y a aussi ce problème-là, c'est que comme si on passe au dématérialisé, les consoles seront beaucoup plus portatives. Elles seront pas aussi grosses que maintenant. T'enlèves le lecteur CD, t'enlèves 2-3 trucs. Donc tu pourras aussi la transporter plus facilement.
Et le jour où ta console elle crash.
Eh ben.
T'as tout perdu, tu passes non. une journée, tu repasses une bah journée oui. à tout télécharger.
En mais... parlant du crash, enfin, on se rappelle il y a quelques mois l'effet bouleversant que ça a eu le piratage du PSN.
Oui.
Et comment tu vois, voilà.
Oui, enfin, je veux dire,
ça pose un vrai problème.
Toi, t'es vraiment contre rentrer tes informations.
Moi, je suis contre pour ça parce que ça me fait vraiment penser à Big Brother et j'aime pas la façon dont les éditeurs s'installent chez nous. Moi, je préfère être distant et aller dans mon magasin chercher tel jeu, être conseillé par tel vendeur que je connais.
Revendeur.
Et voilà.
Tu donneras l'adresse à la fin.
Ouais.
Non, mais voilà, là, pour le coup, je rejoins vraiment son avis. C'est le fait d'aller dans un magasin, de voir une bibliothèque de jeux, de se dire, tiens, je prends la boîte, je regarde le retour de la boîte, je vois les infos, je vois les images, j'ai pas juste
Je fais la même chose sur internet moi, je vais sur par exemple un site internet, je tape le nom du jeu et j'ai même mieux, au lieu d'avoir des images fixes, j'ai des images animées, ça s'appelle des vidéos, je sais pas si tu vis en 2012 toi aussi.
Justement, je suis en 2012, moi quand je vais dans un magasin, je regarde un jeu, je prends mon smartphone, je regarde une vidéo sur YouTube et bim, j'ai ce qu'il faut.
Ouais, c'est vachement pratique.
C'est une question de feignantisme de se dire que mais voilà, dans ce cas-là, j'ai tout chez moi, j'ai mes jeux chez moi, je décharge avec mes cartes bleues et voilà, je sors plus, je vais plus dans les boutiques voir toutes les nouveautés sur les étals et tout, voir les éditions collector, voir tout ça, le fait d'avoir d'avoir quelque chose de physique dans la main, enfin je sais pas, le fait de voilà de me dire j'ai eu mon PC, je lance un jeu depuis Steam, je suis franchement je trouve ça génial pour les indépendants,
mais pas que pour les indépendants, regarde
et
le
on
prix
voit
des
bien,
jeux
voilà c'est ça, les jeux sont tirés vers le bas,
70% en période de Noël ou de solde.
Attends, t'as Dead Space pour 7,50€ les deux, tu vois.
Ouais, voilà. Non, ça,
alors que tu vas le payer en magasin 40€ un des fois, ouais. Non attends excuse-moi, là je suis totalement pour le dématérialisé.
C'est pour ça que voilà je rejoins la dématérialisation et aussi pour une question que vous avez pas abordée, c'est l'écologie. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est aussi politique, mais c'est vrai.
Enfin, la PS Vita, ils ont essayé d'être un peu écolo en mettant le livret directement sur la cartouche et il y a beaucoup d'éditeurs qui le font.
Pareil, il y a plus de livret, moi ça me révolte ça de plus avoir de livret dans mes jeux.
Je suis d'accord avec toi, personne ne lit les livrets.
Ouais, c'est vrai, personne ne les lit.
Ça sentait bon, moi quand j'ai ouvert mon exemplaire de Red Dead Redemption, j'ai ouvert le jeu, j'avais l'odeur de plastique du livret.
Va chez Sephora, va pas dans un magasin de jeux.
Chez Sephora ça pue, sans déconner.
Bah alors arrête.
Moi, je pense que la dématérialisation, ça a déjà commencé.
Ah oui, donc clairement.
Alors, il y a une rumeur sur Internet que j'ai pu lire sur de nombreux forums qui disait qu'en fait, la PSP Go, qui a fait un flop, était en fait un test fait par Sony pour voir si justement ils allaient passer au marché.
Clairement. Je pense que t'as raison là-dessus.
Et donc, on voit bien que ça marche pas. Donc, c'est pour ça que
je pense que les gens, et puis les prix pratiqués surtout, sont pas assez accessibles pour les gens. Et le problème, parce que moi je suis pour et contre la dématérialisation, hein, comme j'ai pu le dire, par rapport au prix tout ça, il y a aussi un autre gros problème, la connexion internet. On a une connexion pourrie, on va mettre 2 ans à télécharger son jeu. Alors qu'aujourd'hui tu vas, comme tu dis, dans un magasin, tu vas acheter ton jeu, tu l'auras sur ton CD. C'est quand même très handicapant parce qu'il y a des jeux qui sont très lourds maintenant, de 6Go, je vois sur le PSN, il y a des jeux comme Prototype, des trucs comme ça. C'est très cher, très très cher, non, au niveau de la place je parle, très très cher au niveau de la place.
Oui.
Et quand t'as 6Go, à télécharger d'un jeu, t'as intérêt à avoir une connexion qui prend derrière suffisamment, sinon tu peux plus rien faire d'autre pendant 6 heures.
Non seulement ça, puis il faut qu'il te reste de la place aussi sur ta PlayStation ou sur ta Xbox.
Oui, aussi, bien sûr.
Donc voilà, moi je trouve que c'est en ça que la dématérialisation, c'est pas top, parce que voilà, t'es obligé de...
C'est le problème du stockage. Ouais.
Voilà, ça te prend de la place sur ta console.
Tu supprimes après.
Ouais, mais d'accord, mais si demain j'ai téléchargé, je sais pas moi, bien de Good and Evil, je l'ai supprimé pour installer un autre jeu, demain j'ai envie de m'y rejouer une petite heure. Et je le retélécharge, je repère une heure à l'installer, je repère une heure à ça. Alors que non, si j'ai la boîte, j'ai le CD, je le remets dans ma console, et bim, je joue.
Après, j'ai...
Enfin, je sais pas, c'est tellement simple d'avoir un support physique, plutôt que d'avoir un truc que tu dois installer, désinstaller, réinstaller, tu perds un temps fou avec ça.
Ouais.
Je trouve ça, enfin moi je sais pas, moi je suis
on va revenir aussi
contre à 100% la dématérialisation, quoi, ça c'est clair et net.
Au jeu d'occasion, hein, on va y revenir, parce que sur internet c'est aussi un des gros sujets. Alors moi personnellement quand j'achète un jeu, c'est qu'il me plaît et c'est que j'ai pas envie de le revendre, mais il y a beaucoup de joueurs qui revendent leur jeu. Ça c'est impossible avec la dématérialisation, hein. Tu payes 30€, même s'il vaut 70 dans le commerce, tu as claqué 30€, tu ne reprendras pas 30€ derrière, tu pourras pas le revendre. Alors que tu peux... Si le jeu ne te plaît plus ou si tu veux vraiment en acheter un autre, le revendre et gagner un petit peu de mon achat dessus. Ça tue, comme on disait tout à l'heure, complètement une partie de de l'occasion, ça n'existera plus derrière. Et c'est aussi clairement le but des éditeurs de tuer le marché de l'occasion.
Oui, c'est regrettable.
Oui, c'est regrettable.
Et il y a aussi un truc, là vous savez, il y a certains sites en fait qui proposent par exemple des Microsoft Points à deux fois moins cher. Je sais pas comment ils font, je m'en suis pas bien renseigné,
ouais,
mais en tout cas,
ça,
je les achète.
Il y a aussi des jeux.
Ah oui?
Ouais.
Mais, enfin, tu sais, pour 5000 points, tu les payes 32€ au lieu de 60.
Ah non, ça je connais pas.
Bah si, moi je les achète comme ça.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est pour dire que il y a pas un modèle parfait, si tu veux, à mon sens, qui existe pour le marché du jeu vidéo. C'est-à-dire que s'il y a la dématérialisation, il y aura forcément des petits malins qui vont créer un système à côté et qui vont faire comme un marché d'occasion. Tu vois ce que je veux dire.
Ça s'appelle la concurrence aussi. Hein.
C'est ça. Mais oui, mais c'est.
En fait, je crois qu'il y a pas de modèle fixe pour le moment.
Donc, je pense que le excepté l'équilibre entre les deux. Là, je suis très centré sur la question, mais vraiment, il faudrait
François Bayrou.
Non mais vrai pour les jeux indépendants, ouais, c'est génial parce que ça développe la curiosité. J'ai acheté des centaines de jeux.
Je vais le redire une fois.
Ça permet aux éditeurs de se lancer, de proposer leurs petits jeux, voilà, pour que les gens les connaissent.
Ouais,
et après, ils peuvent se lancer.
Je vais le redire une fois. Fez sur Xbox 360.
C'est génial.
Il est extraordinaire. Acheté, 800 points. Ça, il faut le prendre. Il est extraordinaire. Et c'est un mec indépendant. Il a été annoncé il y a longtemps et il est finalement sorti récemment. Et c'est un jeu indépendant qui est magnifique.
Moi, je reviens juste sur la question de la solution parfaite pour la vente de jeux vidéo. Enfin, je suis désolé, ça fait quand même 20 ans qu'on nous vend des jeux en boîte. Ça a toujours très bien fonctionné. Il y a aucune raison
non,
que
non,
demain.
C'est faux.
Mais en quoi c'est faux?
Les ventes, elles se cassent la gueule. Les ventes de CD se cassent la gueule.
Mais n'importe quoi. Le jeu vidéo, c'est le premier média culturel au monde à se vendre.
C'est
enfin,
pas
c'est
la question.
Donc voilà, ça peut pas se casser la gueule.
Les prix sont ultra chers. Il faudrait aussi essayer de baisser les prix des jeux, parce que 70€ pour un jeu qui au final va t'apporter 5 heures de plaisir.
Bah après voilà. Et c'est
mais
là
qu'il y a un très gros problème là au niveau de l'industrie, parce que moi je suis dans l'industrie du cinéma et de la télévision, et c'est vraiment deux choses différentes. Les éditeurs ont compris en fait l'intérêt de faire des coffrets, et même les revendeurs comme la Fnac, etc. Et il faudrait justement qu'une chaîne comme ça puisse arriver à faire susciter l'envie chez le consommateur, donc à proposer deux jeux d'un même éditeur, deux.
Mais c'est ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs quand ils nous font par exemple là récemment est sorti
les
compilations, la trilogie des Uncharted.
Et
ça c'est très bien.
Ils copient l'industrie du.
Parce que ça marche,
parce que ça marche
très bien,
exactement. Et c'est aussi pour écouler leur CD, hein. Pour vendre leur jeu. Hein.
Oui, d'accord, mais voilà, mais c'est aussi voilà pour quelqu'un qui n'a jamais joué par exemple à Uncharted. Voilà, il peut acheter les trois d'un coup, il va se refaire la trilogie en une traite, et c'est pas plus mal que
faut attendre combien d'années avant de les avoir?
Bah, regarde, Uncharted 3 est sorti, en début d'année, novembre, et la trilogie est sortie. Ouais, d'accord, et la trilogie est sortie il y a deux mois. Donc, t'es un petit peu patient.
Elle est sortie il y a même pas un mois.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, bon, voilà, t'es un petit peu patient, t'attends six mois, t'as la trilogie.
Mais t'es pas sûr que ça va sortir.
Ça c'est de plus en plus. Bah, d'accord, t'es pas sûr. Et après, je reviens sur ce que tu disais, mais le fait de dire que ouais, ça coûte plus cher d'acheter en boîte et tout. Enfin voilà, il y a toujours le marché de l'occasion. Et il y a encore des sites d'import anglais pour ne pas les citer qui te proposent des jeux.
Zavi, par exemple.
Zavi.com, voilà, on va le citer.
Ou Video Game Plus.
Voilà, qui te proposent des jeux neufs en import anglais pourquoi?
Ou canadien
pour 30 livres. 30 livres, ça fait quoi en euros? Ça fait, je connais pas le taux de change en euros, mais ça. 35-40€. Excuse-moi, au lieu de 70€, tu peux toujours te débrouiller pour trouver des jeux en boîte moins chers qu'en France. C'est juste le système français où les éditeurs qui déconnent un peu.
Il y a un risque de douane, encore une fois.
Mais moi, en tout cas, j'ai acheté souvent sur Zavi, j'ai jamais eu de problème.
Il y a pas mal de monde pour acheter. Il y a toujours un risque de douane quand on fait de l'import. Hein.
Ouais, enfin, je pense qu'il existe toujours des solutions pour trouver des jeux moins chers à leur sortie sur le marché que les acheter en dématérialisé. Je pense qu'il y a toujours le marché de l'occasion qui fonctionne. Il y a les sites internet, tu regardes sur eBay, sur Amazon,
ouais,
sur Pressmeister.
Alors, on va revenir deux secondes sur les sites d'import. Quand tu l'achètes en import, des fois, tu dois attendre ton jeu deux semaines. Il y a des gens qui sont pas assez patients pour attendre deux semaines un jeu. Deux semaines, c'est très long dans le principe. Et si tu peux le payer en dématérialisé le même prix que de le faire importer pendant deux semaines et que tu vas l'avoir dans la journée, je suis désolé, tu fais la part des choses quand même.
Après voilà, mais je pense que c'est vraiment deux publics différents. Et voilà, c'est ceux qui sont comme toi, qui sont vraiment pour les dématérialisés parce qu'ils sont pas.
Je t'ai pas dit que
non,
j'étais pour les dématérialisés. J'aime les éditions collector. J'ai acheté celle de Sonic Generation. J'ai acheté celle de Star Wars The Old Republic. J'ai acheté pas mal d'éditions collector, mais celles qui me plaisent vraiment. Et il y a quand même beaucoup d'éditions collector aujourd'hui où de l'intérieur tu as quoi? Alors une carte, un DLC, un soundtrack, mais attention, ce n'est pas le CD, il faut que tu le télécharges.
Ouais, non, mais
soundtrack.
Là, ça j'appelle pas ça édition collector, moi je te parle
édition collector. Ils appellent ça édition collector,
ouais, mais
je
parce
suis
que
con,
après
ça,
voilà, c'est ça c'est le mensonge dans le commerce, mais je te parle édition collector du style le prochain Assassin's Creed qui va sortir, édition collector est quand même magnifique.
Est-ce qu'on parle du prix? Encore une fois, t'as vu le prix des éditions collector? Tout le monde va pas claquer 150 euros dans un collector.
Non, c'est rare d'avoir une édition collector à 150 euros, ça tombe
ben,
entre
ça
100
en plus,
et 120 euros.
Hein.
Ouais, mais après elle valent le coup. Excuse-moi, quand tu vois le contenu dedans.
C'est encore un autre débat.
Quand tu vois l'édition collector de Diablo 3 qui va sortir, l'édition limitée, où dedans t'as l'artbook de 300 pages, t'as le making of du jeu, t'as la BO.
Il faut aimer l'artbook, il faut aimer les dessins.
Mais alors, mais d'accord.
Tout le monde n'aime pas les artbooks.
Ok, très bien, mais t'as aussi une clé USB avec les deux premiers Diablo dessus, qui est quand même méga classe.
Sauf que tu peux les trouver à 5 euros, les premiers Diablo.
Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là,
En dématérialisé, encore une fois.
Écoute,
à court d'argument.
Ouais, je suis à court d'argument, mais je resterai campé sur ma position.
Mais
ouais,
c'est un truc aussi qui me paraît moi un peu véreux, c'est-à-dire la dématérialisation, ça quelque part arrange bien les éditeurs dans le sens où là, comme l'affaire là du Street Fighter contre Tekken là,
ah,
il y a quelques semaines,
c'est une honte.
Donc on rappelle.
C'est très moche graphiquement d'ailleurs.
On rappelle, c'est
non. Non, mais ça n'a rien à voir.
Mais je sais, mais...
On parle du DLC, là.
Ouais, voilà, que en fait.
Le... Au CD, c'est
voilà,
ça,
c'est ça, ouais.
Et tu payes 70 euros pour débloquer les personnes.
Exactement.
On est d'accord.
Non, ça, c'est...
Et donc, il y avait des petits malins qui avaient réussi à pirater pour pouvoir jouer, enfin, débloquer les personnages qui normalement étaient payants et qui étaient présents sur le disque.
Quand un personnage est payé et sur le disque,
et
il
oui.
faut pouvoir le débloquer en jouant. Non,
mais donc, et donc, tu vois en fait le truc un peu vicieux derrière ça, c'est comme c'est dématérialisé, on saura
ouais,
pas, tu
là,
vois,
là, moi,
les fourberies.
Entière,
et moi,
ouais.
Capcom, là, du coup, je suis vraiment très réfractaire.
Ouais, Capcom ou hier, autant le dire. Il y a aussi une sacrée arnaqueur là-dessus.
Oui, ben voilà, non mais c'est ça, c'est de ça dont il s'agit.
Ça, c'est la politique actuelle de vendre des jeux en kit, hein. Ça c'est.
Donc non mais voilà, qu'on te vende des jeux en kit, mais là ce que je veux dire c'est que ça sera même plus vérifiable, enfin tu vois ce que je veux dire.
Ouais, en parlant de jeux en kit, Nintendo a récemment lancé ses DLC avec le nouvel mise à jour, enfin on en a pas encore nous en France, mais ça va arriver, et le président de chez Nintendo a dit lui-même qu'il ne vendrait pas de jeux en kit. On peut pas en dire autant des éditeurs qui développeront sur la 3DS.
Ah bon, mais attends, il n'y avait pas un download qui était proposé pour Mario?
Alors, pour le moment, il n'est pas, et
okay.
C'est du bonus, c'est pas une partie de l'histoire, c'est ce qu'il dit.
Okay.
Il dit, on aura un jeu complet, avec un début, avec une fin, pas ce qu'on a eu sur Prince of Persia, par exemple, de chez Ubisoft, qui nous avait vendu l'épilogue derrière. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'était encore une grosse erreur. Mais Nintendo a décidé, lui, enfin, c'est ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils vont le tenir? Je sais rien, ils ont dit qu'ils ne vendraient pas de jeu en kit.
Voilà, je pense qu'on s'écarte un petit peu du
oui, on s'écarte un petit peu. Enfin, on parle toujours de dématérialisé,
bah, non,
c'est tout ça.
Non, pas tellement. Bah, pas tellement, parce que justement, ce que ça veut dire, eux, leur public, c'est donc les casual, tu vois. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un public qui est pas prêt, tu vois, à s'investir dans le marché de la dématérialisation, tu vois. Ma sœur est une grande fan de Nintendo. Elle joue, fait régulièrement ses exercices sur la balance là. et si on lui proposait les exercices supplémentaires sur Internet,
elle les paierait pas. Ah bon?
Ouais, elle paierait pas parce que elle veut pas renseigner. Enfin voilà, tu vois.
Ouais, enfin il y a toujours, comme je te dis, les cartes. Hein.
Oui,
mais
non mais
ça,
elle
les
fera
cartes,
jamais l'effort,
tout,
voilà,
quoi,
elle
voilà,
fera jamais l'effort d'aller chez Game pour acheter une carte et puis enfin tu vois, c'est trop.
Je sais pas, c'est frustrant, tu vas chez Game ou chez Micromania, c'est
oui,
pour acheter
oui,
une carte,
non,
tu vas pas une carte
en
plastique.
Bleu, pas te dire.
Donc voilà, moi je sais pas, si je vais chez la Fnac, chez Game, chez Micromania, c'est pour acheter un jeu, c'est pas pour acheter une carte en plastique.
Ouais,
voilà,
ouais. Moi,
voilà,
c'est moi, ça. Moi je paye en CB, j'ai pas trop de réticence là-dessus.
Donc,
j'ai...
On va pouvoir pirater ton compte.
Voilà, c'est fait.
Non, parce que je sauvegarde pas mes informations, contrairement à ce que certains font. Il faut jamais les sauvegarder.
Je connais des Anonymous, fais gaffe.
Ouais, bah vas-y, appelle-les. Donc on va le dire rapidement. Ne sauvegardez jamais vos informations sur Internet, hein. C'est bête à dire, mais il faut le dire. Ne les sauvegardez jamais. Et, achetez toujours sur des sites, qui sont entre guillemets, sûrs, même si, malheureusement, ça arrive, comme le cas de la du PSN qui a été piraté. Ça peut arriver.
C'est
très
rare.
Toujours le savoir. C'est
très,
très rare. Donc, il faut acheter. On peut vous conseiller que d'acheter par vos consoles. Et d'éviter les sites qui vous vendent des clés CD à des prix, défiant toute concurrence, parce qu'on n'est pas sûr de les savoir. Ou alors, il faut payer par PayPal, parce qu'il y a un recours.
Tu dis PayPal?
Ouais, je dis PayPal, moi.
Oh, c'est British, hein.
Ouais, excuse-moi, je dis PayPal.
PayPal pour les francophones.
Et donc, payez par PayPal parce qu'il y a toujours un litige et, vous aurez toujours moyen de récupérer votre argent. Mais faites très attention sur Internet avec les achats.
Ou alors, faites ça à l'ancienne, allez directement chez un revendeur du style Fnac, du style Game, du style Micromania.
Achetez votre jeu moins cher.
Achetez un jeu en boîte, c'est très très bien. Vous avez une très belle collection de jeux sur une étagère et à la fin,
et
voilà.
Et plus de place sur vos étagères et votre mère gueule parce que vous avez vos boîtes qui traînent partout.
Ah oui, mais bon, ça c'est
une autre question, on va pas, voilà, là on s'écarte encore de la chose, mais voilà, si moi je conclurais là-dessus, je conclurais que vraiment moi je suis vraiment quelqu'un de très old school, j'ai besoin d'avoir ma boîte, mon livret, même s'il y a plus beaucoup de livrets maintenant, mais d'avoir mon livret, mon CD.
Il n'y en aura plus d'ici très peu.
Et voilà, moi je suis à l'ancienne, je veux ma collection de jeux vidéo physique et pas sur un disque dur.
Moi je conclurais en disant que je suis pour et contre. Pour, parce que donc c'est écolo, on l'a dit, il n'y a plus de rayures, c'est un gain de place, les prix sont tirés vers le bas, mais aussi...
Pas tout le temps, mais bon.
Ouais, on espère que les prix vont être tirés vers le bas, c'est quand même le minimum. Mais d'un autre côté, je suis contre parce que c'est la mort des petits magasins, ou alors ils vont vendre...
Oui, c'est des emplois en moins, du coup.
Voilà, ouais. Ils vont vendre des numéros et ça, c'est pas bon. Parce que ça tue le marché de l'occas, c'est ce qu'ils voulaient, donc je suis pas d'accord. Pour le piratage, je suis... moyennement, enfin j'ai peur vraiment.
Ah, ça risque d'augmenter le piratage.
Exactement.
Très fortement, oui.
Et d'autre
on
part,
sait qu'il sera sur un serveur et donc il y aura juste à passer le serveur pour récupérer les jeux.
Exactement. Donc moi je vois ça aussi d'une manière en mode on vous pousse à consommer plus, c'est-à-dire il va falloir acheter des stockages externes pour pouvoir stocker tous nos jeux. Donc voilà, je vois pas ça d'un très bon œil, mais je suis partagé parce que ça amène des bons points.
Ouais, moi je pense que t'as tout dit, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur le débat. Et nous allons conclure ce podcast par une nouvelle rubrique qui nous a été soufflée par quelqu'un par MP. Une rubrique coup de cœur, coup de gueule. Alors toutes les deux semaines, on aura soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Et on va commencer par notre invité, Jean-Sébastien.
C'est très aimable.
Alors Jean-Sébastien, coup de cœur ou coup de gueule?
Alors coup de cœur pour le prochain Mario. Qui sera sur 3DS. À mon sens, c'est très bien qu'il revienne à la 2D parce que ça va fédérer encore un nouveau public qui était très éloigné et qui ont vu avec beaucoup de méfiance l'opus 3D.
Il faut savoir qu'on peut toujours désactiver la 3D. Hein.
Non, mais vraiment dans le sens l'évolution du personnage en 3D. C'est-à-dire qu'il y a des points de vue qui sont en hauteur, etc. Là, le point de vue apparemment...
Ouais, mais la 3D va manquer, j'ai l'impression, quand même. Hein, sur
du tout, et justement, c'est à mon sens là où Nintendo va être très créatif, c'est qu'ils vont proposer un arrière-plan qui sera justement très bien en 3D, et donc, à mon avis, ils vont travailler ce côté là où on s'attend pas. Voilà.
D'accord, bon coup de cœur pour Mario. Et Ludovic, toi ?
De mon côté, coup de cœur aussi pour un petit jeu que j'ai découvert il y a une semaine sur smartphone, qui était sorti d'abord sur iPhone et là sur Android, donc c'est Temple Run. Donc c'est un petit jeu génial, vraiment addictif, où en fait le but c'est on incarne un petit personnage qui s'échappe d'un temple avec une idole en or et qui court sur une muraille avec donc le chemin se fait aléatoirement. Et c'est vraiment un jeu de réflexion, enfin de plateforme réflexion vraiment génial et vraiment addictif. Donc je le conseille à tout le monde. Donc c'est gratuit sur Android, sûrement payant sur iPhone. Et c'est vraiment un très bon jeu, très simple et très bon. Voilà.
D'accord, très bien. Et moi je vais finir sur un coup de cœur aussi. Donc il y aura eu que des coups de cœur cette fois-là. C'est pour le petit jeu Fez. Qui est extraordinaire sur Xbox 360, exclu pour le moment. Hein. On ne sait pas s'il sortira sur PC, ça avait été annoncé, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Et je vous conseille donc de mettre 800 points là-dedans. Vous êtes un petit personnage qui pense que la vie se fait en 2D, qu'il n'y a pas d'autres dimensions et tout. Et un jour, vous allez tomber sur un cube, et là, tout va changer, vous découvrirez qui.
Ouais, j'ai vu des vidéos de gameplay, pardon, et je trouve ça vraiment très joli, très bien.
C'est super beau, c'est super addictif. Par contre, on se perd très facilement, mais... C'est vraiment bien, je vous conseille vraiment de faire le pas, ou alors même de tester la démo avant de l'acheter. Mais 800 points, c'est vraiment pas beaucoup.
Et c'est là-dessus qu'on va conclure ce deuxième numéro du podcast de serial-gamer.fr. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour de nouvelles news, de nouveaux tests, un nouveau débat et des nouveaux coups de cœur ou coups de gueule. Voilà, sur ce, à dans deux semaines.
À dans deux semaines.
Au revoir.
Merci de m'avoir invité.
De rien.